Il y a Christine et Bernard qui ont raté un épisode la semaine dernière, comme c'est leur fête ce matin. J'ai envie de leur dire que ce sont deux ânes. Ce sont deux ânes. Et je pense que vous êtes tous d'accord. Ce sont deux ânes. En fin de compte, vous lirez, Christine et Bernard, cet épisode dans Nombre, chapitre 22, à partir du verset 22. C'est l'histoire de Balaam. Qui voit pas, qui est prophète, et qui voit pas l'Éternel, et que il n'y a que l'âne qui a vu l'ange de l'Éternel. Et simplement pour dire que le Seigneur a besoin de nous, et il nous utilise. C'est pour ça que vous êtes deux ânes. Voilà. Et qu'est-ce qui nous empêche justement? Et je suis très content parce que je vais simplement développer ce que Emmanuel vient de dire. Le Seigneur m'a interpellé cette semaine. J'ai vraiment eu cette image dans la tête et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et qu'est-ce qui nous empêche justement d'aller à Jésus-Christ? On a parlé d'humilité, on a parlé de plein de choses. Il y a plein d'obstacles dans nos vies. Et souvent, on tombe dans nos églises avec des chrétiens qui transportent des choses depuis des années. Et ils s'étonnent, en fin de compte, qu'ils n'avancent pas. Alors que le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour qu'on soit libre, libéré. Quand j'étais jeune converti, j'avais du mal à parler du Seigneur. Vous allez lui dire, c'est incroyable, pourtant, c'est au début où on parle que du Seigneur. Et après, ça commence à descendre. Moi, gloire à Dieu, ça y est l'inverse. Et en fin de compte, c'est que je trimballais depuis mon enfance la timidité. Et il a fallu que le Seigneur me libère de ça. Me libère de cette timidité. J'étais incapable de parler, même ici au micro, j'aurais été incapable. Et j'aimerais qu'on prenne ce matin en Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et bien sûr, on voit ici Paul, ce Saul de Tarse qui a été saisi sur le chemin de Damas, qui a rencontré celui qui a bouleversé sa vie et qui a transformé son échelle de valeur. Parce que le problème ici, il est là, son échelle de valeur. Quelle est notre échelle de valeur ce matin? Comment on se voit chacun? Peut-être on se sent indigne de Christ parce que j'ai encore des choses, j'ai encore des péchés, j'ai encore des choses de mon passé qui remontent. Comme une écharde dans mon corps, qui, dès que la parole de Dieu vient s'appuyer dessus, me rappelle que j'ai un problème. Mais Saul de Tarse a eu la vision céleste, l'ardente lumière qui était sur lui. Il ne l'a pas vue parce qu'il était aveugle. Et si vous regardez bien, il a passé 3 jours. Les mêmes 3 jours que Christ a passé. Et il est né de nouveau au bout du troisième jour. Parce que cette lumière a saisi ses profondeurs, son être. Et celui qui lui a parlé, c'était celui qu'il persécutait. Et au travers de cette lumière, le secret est là, c'est qu'il s'est vu comme un pécheur. Il a vraiment reçu cette lumière. Qu'il a inondé ses profondeurs. Il a vu en fin de compte que ce qu'il faisait, c'était pas pour Dieu qu'il le faisait, mais c'était pour lui-même. Et en fin de compte, il travaillait contre Dieu. Il a fallu la lumière de Christ dans sa vie pour voir qu'il était sur le mauvais chemin. C'est alors qu'il a balayé les atouts de sa race, de sa caste, sa position, mais même de sa religion, qui prenait pour lui une valeur, son échelle de valeur. Il l'a vu à ce moment-là comme une perte. Il a tout balayé. Il les a considérés, c'est ce que disait Emmanuel. Il les a considérés comme des éléments le bloquant sur le chemin de Jésus. Et s'en est débarrassé. Et le verset que le Seigneur m'a donné, c'est celui-ci. Néhémie, chapitre 1, verset 3. Ils me répondirent. Ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ceux qui sont restés dans la captivité sont là. Ils errent dans la province. Est-ce que ce matin je suis au milieu de ma vie comme au milieu d'un champ de ruines ? Est-ce que j'ai oublié que j'étais éclairé par la lumière de Christ ? Comment on a fait notre compte pour en arriver là ? Quelles sont les choses qui nous empêchent de vivre et surtout de voir pleinement Jésus-Christ dans nos vies ? Parce que Christ est dans nos vies, mais on ne le voit plus. Parce qu'on est en captivité. Parce que les choses qu'on voit sont en ruine. Parce que je veux les voir en ruine. On ne se sent pas à la hauteur. Combien disent « Je ne suis pas à la hauteur de ce Christ ». Mais Jésus-Christ en a rien à faire. Qu'on se sente à la hauteur ou pas, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Et il y a beaucoup de gens qui traînent des choses depuis des années, alors qu'ils n'ont plus à le faire. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Jésus est mort pour quiconque croit en lui, passe de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Quelle est la solution ? Quel est le secret pour que je puisse balayer ? En Amos, chapitre 5, verset 4, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Si vous cherchez un peu dans la parole, Amos, ça veut dire « porteur de fardeau ». Et là, le peuple est allé jusqu'à l'épuisement de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, jusqu'au bout. Et malgré les calamités, ce peuple n'a même pas eu la repentance. Il a toujours rejeté. Et là, Dieu est allé au-delà. Il s'est abaissé vers son peuple et l'a supplié « Cherchez-moi et vous vivrez ». On va vivre, oui, dans ces cas-là, mais la vie selon Dieu, pas la vie qu'on veut vivre, pas la vie où toutes les choses remontent. Il faut lâcher ce qui nous ralentit aujourd'hui. Il faut lâcher ce qu'on garde comme un boulet, comme une remorque. J'avais dit une fois à quelqu'un dans l'église, mais tu traînes une remorque dans ta vie. Tu traînes une remorque qui n'est pas équilibrée, qui risque de crever. Il faut t'en débarrasser. Lâche cette remorque. Et Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour que nous soyons libres. En Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce qui nous rend prisonniers aujourd'hui? Est-ce que ce sont les choses du passé, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire? On ne les a pas faites, tant pis. Le Seigneur nous donne un avenir aujourd'hui. On n'a pas à regarder le passé. Et au travers de Jésus, ce Jésus qu'on a vu mort sur la croix, Dieu veut nous donner la liberté. Beaucoup de personnes sont, sans le savoir, prisonniers d'eux-mêmes. J'ai reçu avec les autorités de la ville, on devait recevoir un couple, et la dame, il n'y a qu'une dame qui est venue. Parce qu'ils avaient des problèmes de voisinage, enfin plutôt. C'est eux qui créaient des problèmes de voisinage. Et c'était terrible. Il faut voir tout ce qu'ils font. Enfin, pas cette dame. Cette dame essaie de tenir ce qu'elle peut à bout de bras. Seulement, elle a son mari qui ne veut pas travailler, qui fait tout et n'importe quoi. Il démonte des murs alors qu'il n'a pas à le faire puisqu'il est locataire. Et cette dame n'en pouvait plus. Et je lui ai dit, mais comment ça a commencé? La réponse a été directe. Elle a dit, ça a commencé le jour où il a eu un problème avec sa famille. Ben, j'ai dit, oui, mais d'accord, il a eu un problème, et alors? Il s'est réfugié dans l'alcool. Voici l'exemple flagrant de la race humaine. Des gens qui ne savent pas faire face. Des gens qui, leur seul secours, leur seul refuge, c'est l'alcool. Et ça a tout dévasté. Ça a dévasté la famille, ça a dévasté les enfants. Il faut voir l'état de cette famille aujourd'hui. Il faut voir l'état de la maison. Et comment est ma maison aujourd'hui? Comment il est le temple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est quoi mon refuge ce matin? C'est quoi? Vous savez, c'est poignant d'entendre ces choses. Quelqu'un qui vous dit, il s'est réfugié dans l'alcool. Vous avez envie de lui dire, mais il y a Christ! Et on ne peut pas. J'aurais bien voulu lui dire, il y a Christ. Mais je pense que je vais aller chez eux, je vais lui dire, il y a Christ qui peut faire quelque chose dans votre vie. Il y a Christ qui peut vous libérer de ce refuge qui ne va absolument pas résoudre les problèmes. Si vous lisez en Job, chapitre 26, verset 2, Job a raison. Il dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Il n'y a que la présence de Dieu dans notre vie qui peut faire ça. La présence de Christ qui peut combler toute chose, même le vide, même l'absence, même la solitude. On parlait du psaume 23. Que dit le premier verset du psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on a dit ça, on a tout dit. Et pourtant, il y a combien de chrétiens qui sont au milieu de leur vie comme au milieu d'un champ de ruines? Combien? Combien? Combien sont liés à leur passé? Combien sont liés à leur présent? Parce qu'il n'y a pas que le passé, il y a également le présent. Combien sont présents dans nos églises, entendent chaque fois l'Éternel qui dit « Je viens à ton secours, implore-moi, invoque-moi. » Et pourtant, ils survivent. Et pourtant, dans cette immense peine, immense contrainte, Jésus a lancé sur la croix « Tout est accompli ». Et c'est ce matin ce qu'il veut faire dans vos vies. Il veut tout accomplir. Il veut vous donner cette liberté qui vous terrasse peut-être aujourd'hui, qui vous empêche, comme disait Emmanuel, d'aller plus loin. Est-ce que ma prière, c'est celle du psaume 31, verset 14 ? Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis tu es mon Dieu. Parce que se confier en l'Éternel, c'est aller au-delà du voile en Jésus-Christ. Parce que le voile s'est déchiré du haut vers le bas quand Christ est mort. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette liberté parce qu'on communique directement avec Dieu. C'est Christ qui a rétabli la relation. Une vie en Christ, c'est une vie qui n'est pas condamnée. Une vie que même le malin ne peut accuser. Et si vous lisez le premier verset de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Même votre passé ne peut vous condamner. Même ce que vous n'avez pas fait et que vous auriez dû faire ne peut vous condamner parce que vous êtes en Jésus-Christ. Le champ de ruines qui est ma vie, peut-être aujourd'hui, n'a plus lieu d'être parce que Christ a vaincu les problèmes qui ont fait de ma vie un champ de ruines. Ai-je déjà pensé à confier ma vie à cet avocat, à ce Jésus? Il y a une sœur au Liban qui était au milieu des bombardements. Sa prière, c'était simplement: Seigneur, Père, quels que soient tes plans pour moi, tu connais mon désir, annoncer ta parole. Et elle a traversé pendant des semaines et des semaines Beyrouth sous les bombes. Et elle n'a jamais été blessée. Elle n'a eu aucun problème parce qu'elle a confié sa vie à l'Éternel. Est-ce que c'est les petits problèmes de ma vie qui vont me bloquer? Alors que je peux connaître ce matin le ciel? Est-ce que ma prière, c'est quel que soit mon passé, Père, quel que soit mon problème, mon désir dans ma vie, c'est glorifier ton nom? Est-ce que c'est ma prière ce matin? Est-ce que je suis aveuglé par les ruines de ma vie? Est-ce que je suis submergé? Alex et Paul pourraient le dire, on reçoit souvent parfois des gens qui nous disent qu'ils ont une vie incroyable. Ils ont des problèmes qui traînent depuis des années. Et il n'y a pas qu'ici, dans beaucoup d'églises, c'est pareil. Je traîne ces problèmes depuis des années. La question, c'est pourquoi ? Quel est mon refuge ce matin ? C'est quoi mon refuge ce matin ? Est-ce que mon refuge, c'est les problèmes ? Est-ce que les refuges, le refuge, c'est moi-même ? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ, victorieux dans ma vie ? Et le Seigneur m'a donné un verset. Je ne suis pas allé loin. Je suis allé en Amos, chapitre 9, verset 11, qui est quelque chose qu'il faut poser ce matin sur votre cœur. Posez-le sur votre cœur. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Si ce matin vous étiez sur le chemin de Christ, et que pour quelque raison que ce soit vous êtes retrouvé submergé, l'Éternel te dit ce matin, je vais rebâtir. je vais redresser les ruines. Je vais te rebâtir tel que tu étais au début que je t'ai connu. J'ai eu sur le cœur de ce matin de demander à qui, à ceux à qui ces choses sont présentes, de se lever. Parce que dans Esdras chapitre 10, verset 4, il est dit « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Si tu sais ce matin que ta vie est en ruine, si tu sais ce matin que, comme a dit Emmanuel, tu ne sais pas aller plus loin avec Christ, moi je te dis une chose, regarde pas ce qui est autour, regarde pas les frères et sœurs, regarde à Christ, lève-toi, avance-toi et on va prier, parce que le Seigneur veut libérer ce matin. Le Seigneur veut agir dans ta vie, il veut te libérer de ce qui te condamne aujourd'hui. Et quand je te dis ce qui te condamne, c'est selon ton intelligence. Parce qu'en Christ, tu es libre. En Christ, toute chose n'est plus, parce que Christ a été victorieux. Si ce matin ton cœur veut avancer, alors lève-toi et avance. Amen. Merci Père, merci pour ta parole. Seigneur, ton but c'est nous libérer. Seigneur, ton but c'est glorifier nos vies par ton nom, par ta présence. Seigneur, merci pour ton esprit qui est présent. Seigneur, c'est toi qui dois être glorifié ce matin. Seigneur, que ton esprit agisse. Seigneur, que ce soit toi qui puisse prier, qui puisse parler à nos frères et à nos sœurs qui se présentent devant toi ce matin. Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur cœur. Je vais demander à Paul et à Alex de s'avancer.